Bonjour, je suis Guillaume Leger de Girafe et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans mon émission Un Havre de Culture l'actrice, réalisatrice, metteur en scène Ninon Bretéché qui nous fait l'immense plaisir d'accepter notre invitation. Ninon, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien.
Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Alors, Ninon, tu n'es pas havraise, mais pour autant, tu as quand même des connexions avec Le Havre en ce moment. Ou depuis quelques années, j'ai envie de dire.
Absolument, Le Havre est en train de m'adopter.
Ah, puis tu y travailles ?
J'y travaille tous les ans sur un projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Les Bobines du Havre.
D'accord, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'interview. Ma première question serait, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Absolument.
En quelques mots.
Alors, avec plaisir. Je m'appelle Ninon. Donc, j'ai quelques lettres de girafe. J'ai le I. Je m'appelle... mon nom de famille, c'est Bretéché.
Oui.
Voilà. Qui me vient de mon père, qui vient de Nantes. Et voilà. Donc, Bretéché, c'est le nom aussi d'une célèbre dessinatrice.
Oui.
Voilà. Donc, Ninon Bretéché.
D'accord. Ninon, je sais que tu es comédienne. Tu es réalisatrice, tu fais de la mise en scène. J'aimerais qu'on consacre la première partie de cette émission à ton métier de comédienne. Est-ce que tu peux nous parler des pièces tu as joué dans plusieurs pièces, mais celles qui ont été fédératrices pour toi, peut-être celles qui t'ont marqué. Est-ce que tu as des exemples de pièces à nous donner dans lesquelles tu as joué ?
Oh oui, il y en a trois. Il y a eu une pièce mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia, oui, au Théâtre de la Commune, qui s'appelait « Biographie, un jeu ». Une pièce de Max Fritsch, qui, voilà, une histoire incroyable d'un homme qui décide de pouvoir rejouer des scènes de sa vie. On a tous rêvé de faire ça un jour.
Ah bah oui, oui.
Et donc il rêvait de revenir
en arrière alors.
Ouais, de rejouer sa première rencontre avec sa femme un soir,
ouais,
de ne pas lui qu'elle ne reste pas à dormir, qu'il ne tombe pas amoureux et qu'il ne vive pas avec elle.
Très bien. Tu nous dis pas comment ça se termine ?
Je peux vous dire que, en tout cas, c'est assez illusoire de se dire que si on pouvait revenir en arrière, les choses changeraient du tout au tout. C'est Max Fried, je crois qu'il était philosophe aussi, ce dramaturge. Et voilà. Et dans cette pièce, je jouais. Donc il y avait l'homme et la femme. C'était François Berléand et Emmanuel De Vos qui jouaient le couple amoureux. Et avec David Mijot, nous jouions tous les hommes et toutes les femmes de leur vie, voilà, pour essayer de déjouer le temps et de le changer.
D'accord. Et on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas forcément une bonne chose de vouloir rechanger les choses ou revenir en arrière ?
Alors, en tout cas, on se rend compte que c'est impossible. C'est pas spécialement douloureux, mais c'est vain.
D'accord.
C'est-à-dire que tout se repasse exactement pareil. C'est inéluctable.
D'accord. Quoi qu'on fasse.
Quoi qu'on fasse. Alors parfois c'est très drôle et parfois c'est très triste. Mmh. Mais en tout cas, c'est voilà. Et on a eu beaucoup de plaisir à jouer cette pièce. Donc elle m'a beaucoup marquée. Il y avait Eric Elmosnino aussi qui jouait le metteur en scène, qui était incroyable. Ensuite, il y a eu beaucoup de pièces avec le metteur en scène Jean-Louis Benoît, qui est extraordinaire. Alors là, ça a été Des Goldoni, Conversation en Sicile, d'Elio Vittorini. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Jean-Louis. Et puis, très récemment, Laurent Delvert, qui est un jeune metteur en scène que j'adore, qui fait pas mal de créations à la Comédie Française. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un Musset, On ne badine pas avec l'amour, une équipe de rêve. Ah, ça m'a marqué parce que j'ai passé des mois merveilleux à leur côté, à dire des mots magnifiques.
C'est pour ça que tu fais ce métier, peut-être ?
Ah oui, pour être en bande.
Oui.
Pour dire des mots magnifiques,
ouais,
et pour avoir rendez-vous avec le public tous les soirs. Ça, c'est délicieux.
C'est fantastique.
Fantastique.
Alors comment moi, je ne suis pas comédien. Pour les auditeurs ou les auditrices qui ne seraient pas comédiens ou comédiennes, mm-hmm, comment se passe le métier de comédien ? C'est quoi la vie d'une comédienne ? C'est quoi sa journée ?
Est-ce
que c'est de l'attente ? Est-ce que c'est de l'excitation, des interrogations, de l'angoisse ? Comment ça se passe, une journée de comédienne ?
Oui, la journée des comédiens, et je peux dire, parce que on parle beaucoup avec les camarades, c'est une journée qui est tendue vers le soir.
D'accord.
Tout est fait en fonction du soir.
Ok.
Donc, on se réveille, on regarde si sa voix va bien.
Ça veut dire qu'on se lève tard parce que ça ne sert à rien de se lever tôt ?
Alors, ça peut, mais certains se lèvent tôt pour faire du sport.
Ouais.
D'autres économisent leur force et prennent de leur élan et se lèvent tard. Mm-hmm. Mais surtout, on fait très attention à notre voix. On regarde si la voix tiraille un petit peu.
Là, tu parles du métier où tu vas le soir réaliser, être sur scène.
Être sur scène, pour le théâtre.
D'accord.
Là, je parle principalement du théâtre.
Du théâtre. Tu as une pièce en représentation, elle est le soir, donc ta journée se passe et dirigée vers le soir.
Complètement.
Donc tu passes ta journée à être tranquille, à faire attention à ta voix, à réviser ou pas, à répéter ton texte.
Alors certains,
je sais pas si on dit
réviser, mais... oui, alors parfois on revoit son texte. Oui, il y a des acteurs qui aiment bien faire ça. Beaucoup font des échauffements physiques parce que c'est souvent des pièces un peu, par exemple le Musset, on courait partout, on dansait beaucoup, mmh. et les femmes, elles dansaient par exemple sur des talons. Oh, donc on s'échauffe, certains font du yoga. Et puis on fait attention à notre voix, beaucoup, beaucoup, pour que la voix soit parfaite le soir. Alors j'imagine les chanteurs d'opéra, ça doit être infernal. Mmh. Parce que nous, déjà, on veut pouvoir se faire bien entendre. Et donc, si on sent la moindre chose, c'est du thé, du thym. Voilà, on préserve nos appareils.
On est obsédé par sa voix.
Absolument.
Et il a peur de la perdre, en fait.
Ah, mais complètement. Ou de ne pas être assez clair le soir pour... Voilà, donc c'est vraiment tendu vers le soir. Et après la représentation, c'est la récompense.
On se réunit avec la troupe, on va boire un verre, manger un morceau.
Exactement.
Et on partage, on parle de la représentation.
Beaucoup.
Généralement. Comment ça s'est passé. Et donc, est-ce que c'est vraiment différent tous les soirs ?
Ah, vraiment, vraiment. Ah, mais ça n'a rien à voir. L'équipe reste la même. Nous, on essaye d'être le plus régulier possible, mais de s'adapter au public qui est là.
Qu'est-ce qui diffère chaque soir ? C'est le public d'abord ? Ou ça peut être l'état d'esprit des acteurs ou des actrices. On est parfois plus en forme, d'autres fois moins en forme. Est-ce que tout ça a une influence sur la pièce et la représentation ?
C'est quand même vraiment le public. C'est-à-dire que parfois on arrive un peu plus sombre ou un peu plus lumineux ou un peu plus, dynamique. Mais c'est le public qui va quand même colorer. S'il est très rieur, ça va nous galvaniser et nous tirer un tout petit peu vers quelque chose de plus actif, de plus... Si on le
ça
sent
te,
plus...
Ça t'apporte de l'énergie quand tu le vois avoir du répondant, c'est ça ?
Complètement.
Et ça, tu le vois tout de suite dès que le rideau se lève ? Tu le sens ou pas ?
Ah, très vite.
Très vite, on voit si le public est avec toi ou en attente.
Ah, complètement. Alors... moi, j'ai jamais joué de grandes comédies, mais en tout cas pour des spectacles qui sont destinés à faire rire, c'est même le rideau baissé, on voit à peu près l'humeur d'une salle.
On la sent.
On la sent.
L'atmosphère.
Exactement. On peut dire s'ils sont rieurs, s'ils sont venus pour se divertir, s'ils sont venus pour passer un moment calme. Oui, tout à fait. Et par exemple, pour parler de choses qui sont un peu graves, les mois très sombres qu'on vient de passer,
oui.
Eh bien... Le public qui se déplaçait pour venir au théâtre arrivait avec le poids de la journée, le poids de l'actualité. Et tous ensemble, les comédiens et les spectateurs, on se hissait vers une lumière, vers une envie de pas d'oublier ce qui se passait, mais en tout cas de s'en extraire le temps d'une représentation. Oui,
oui
ça,
là,
c'est
le
sûr.
But, c'était pas, il y avait pas de jugement, il y avait une, on était une communauté en fait.
Exactement.
On avait besoin d'aller ensemble de l'avant, quoi, et de changer d'air.
Tout à fait. Tu parles de communauté ou presque une communion.
Une communion. Voilà, exactement. Oui. Donc ça, c'était des bons moments finalement pour un comédien.
Formidable, parce que d'être obligé, de toute façon, d'être tenu d'aller jouer tous les soirs, ça c'est presque militaire, mais c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps trop de s'écouter.
Oui.
Il faut y aller. Les personnes, les spectateurs, ils quittent leur travail ou ils quittent leur foyer pour venir. Ils prennent des moyens de transport, ils prennent leur voiture. Ils sont là. Il faut que tout soit parfait.
Donc, ta journée avant une représentation, tu la passes en général chez toi. Chaque comédien est chez lui. Il n'y a pas de pré-rentrée, pré... non, c'est pas... On se donne pas rendez-vous à 14h. On répète un peu et on se revoit le soir.
Ouais. Quand on fait des raccords, c'est ce que tu dis.
Ouais.
Quand on fait des raccords parce qu'il y a eu un problème technique ou on se donne rendez-vous l'après-midi, mais en fait, on évite. On évite parce que sinon, on use l'énergie.
On perd le flux.
Exactement.
D'accord. Et ça, dans le cadre d'une représentation, ta journée est chargée, elle est prise par ça. Mais les jours où tu n'as pas de pièces, comment ça se passe ?
Ah bah là, c'est la vie
normale.
Normale.
elle suit son cours, on attend un coup de fil. Souvent, on entend parler des comédiens qui sont en attente devant leur téléphone, de savoir si on va les appeler, si quelqu'un va penser à eux ou à elles pour une pièce. Ou... C'est comme ça, c'est vraiment un stress.
Ça peut arriver. Alors, personnellement, moi, je n'attends pas. Je ne suis pas trop dans une attente permanente. Mmh. Mais si je fais des essais, alors effectivement, j'attends le coup de fil de la réponse avec beaucoup de fébrilité. Ça c'est sûr.
D'accord.
Quand je rencontre un réalisateur ou que je passe des essais et que, les jours qui suivent, je ne suis pas tranquille. Je suis impatiente, je suis très excitée quand
ça marche.
On passe
des castings comme au cinéma ?
Ah non, alors là, je parlais vraiment pour tourner. Non, au théâtre, moi, on passe pas trop de casting. C'est généralement les gens qui viennent nous voir sur scène qui ensuite nous engagent. Besoin.
D'accord. Très bien. Quelles sont, à ton avis, les qualités qu'il faut avoir pour être comédien ou comédienne de théâtre ?
Aimer travailler en équipe.
Ouais.
Aimer travailler en groupe. Aimer les textes. Je pense que lorsqu'on aime les textes, je pense à ça, mais en même temps, j'ai des amis qui font de l'impro et qui en font très, très bien. Alors, ils aiment la langue, eux, d'une autre façon. Ils adorent...
Ils aiment la musique de la langue,
exactement.
En fait.
Exactement. Ils aiment jouer avec la langue, avec les rythmes, avec la musicalité de la langue. Et puis, ceux qui jouent des textes, c'est-à-dire la majorité des comédiens, ils aiment les textes.
D'accord. Est-ce que tu as des relations extra-professionnelles avec les comédiens et les comédiennes ? Vous continuez de vous voir ou pas ? Peut-être pas avec tout le monde, j'imagine, mais vous formez une communauté, après vous continuez de partager, de vous appeler, de vous donner des idées ou un travail ou une pièce à donner. Comment ça
tout à fait.
Ouais.
Il y a une vraie fidélité. Alors, sur une troupe de 12 personnes, c'est comme en amitié, je veux dire, quand on part en vacances ou qu'on rencontre un groupe d'amis. Après, il y en a un ou deux qui est dans notre sillage ou nous, dans le sien.
Oui.
Il n'y a pas les 12.
D'accord. Bah, c'est comme une colonie, hein, finalement.
Exactement. C'est comme une colo.
OK. Et qu'est-ce que tu... Alors, j'ai une question à te poser. On va faire une pause musicale. Si tu devais choisir une musique comme une colo de troupe de théâtre, qu'est-ce que tu choisirais comme musique qui pourrait représenter ça ? Ou un air ?
C'est parce que je pensais à une musique. Quand tu me dis musique, je pensais tout de suite à quelqu'un. Mais pour la colo, je ne vais pas dire les Smiths. Je vais dire...
Les Smiths, c'est très bien. Ben, pourquoi pas ?
Alors... Oui, une chanson des Smiths.
Une chanson des Smiths.
Une chanson des Smiths.
Eh bien, écoute, je te propose d'écouter une chanson des Smiths et on se retrouve après. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I...
Said, and I
Eh bien, de retour après cette pause musicale, je rappelle que nous sommes avec Ninon Bretéché qui nous parle de son métier de comédienne, de réalisatrice et de metteur en scène. Ninon, on a parlé de ton métier de comédienne. J'aimerais qu'on revienne maintenant plutôt sur ton métier de réalisatrice. Tu as réalisé plusieurs documentaires.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être pas de tous les documentaires, mais de un ou deux, ou du dernier, par exemple, que tu as pu réaliser ?
Absolument. Alors, le dernier s'appelait « Les nouvelles vagues ». Et en fait, j'ai suivi des jeunes gens qui font l'école des mousses et donc qui s'engagent dans l'armée, dans la marine.
Oui.
Et j'ai filmé vraiment leur formation, donc leurs trois premiers mois. Et voilà, donc c'est des profils très différents. Et je leur avais confié des petites caméras, ce qui fait que moi, je l'ai filmé avec mon regard totalement extérieur, civil, j'allais dire.
Sans connaître le système militaire.
Voilà, donc avec le regard du téléspectateur et du spectateur qui ignore tout de l'armée et de la marine. Et eux se sont filmés avec des petites caméras et donc je leur avais demandé de filmer des moments de leur formation qui les marquaient. Donc ça pouvait être des tiges, des travaux d'intérêt généraux parce qu'ils avaient fait une petite bêtise, donc des tiges dans les couloirs, ou bien une formation dans la nuit dans un campement, ou bien un moment où ils regardaient un match tous ensemble, sachant qu'ils n'ont pas leur portable. Donc voilà, ils avaient des petites caméras à leur disposition et donc c'était le regard que je portais sur eux, qu'on pouvait porter sur eux, et le regard qu'eux-mêmes portaient sur leur formation.
D'accord. Ça, ce documentaire t'a été demandé ou c'est toi qui a... Comment ça se passe, en fait, quand tu réalises un documentaire, tu réponds à une demande ou tu as des idées et tu te lances et ensuite tu essaies de le proposer à une télévision ou à un... Ou un diffuseur, comment ça se passe ?
Alors,
ou les deux, peut-être ?
Alors, oui, ça peut tout à fait varier. En ce qui concerne les nouvelles vagues, c'est mon amie et productrice Marie-France Lucchini,
oui,
qui avait l'envie de parler de ce monde des jeunes gens qui, très très jeunes, s'engagent. Sur l'engagement de très jeunes gens. Donc c'est elle qui m'a montré le chemin de Toulon, de Saint-Mandrier plus exactement, et qui m'a dit, voilà, j'aimerais que tu ailles filmer ces jeunes gens. Elle m'a dit, ça serait bien également que tu rencontres Charles Berling, qui vit à Toulon et qui dirige le Théâtre Liberté, et Boris Cyrulnik, qui vit juste en face de Saint-Mandrier, qui a un rapport tout à fait, qu'on connaît tout à fait puissant, et à la mer, et à l'humanité en général.
Et elle t'a demandé de réaliser ce film, ce documentaire, mais pour le diffuser ensuite ?
Alors,
elle est productrice, je ne sais pas.
Absolument, elle est productrice, et au tout départ, on s'est lancé dans l'aventure, il faut dire, en plein Covid. Donc, elle m'a donné un peu la cartographie. Elle m'a dit, voilà, l'armée, Charles Berling, Boris Cyrulnik sont face à cette base marine. Il faudrait que tu racontes une histoire avec tous ces protagonistes passionnants. Et c'est moi qui ai tissé ensuite la narration. Et puis, très vite, on est allé tourner des images et les chaînes ont été intéressées. On a montré des images à France 3, on a montré des images à Public Sénat et ils ont dit, alors oui, nous, ça nous intéresse, on va diffuser ce film. Donc, on a poursuivi le tournage, on l'a monté.
Tu as fait une première partie de tournage que tu as montée, proposée aux télévisions. Elles sont intéressées. On continue le tournage. En fait, t'as pas fait le tournage complet en proposant ensuite ton documentaire fini.
Non, parce que alors c'était une configuration particulière, le Covid empêchant pas mal de choses. Là, on a un peu, oui, fait les choses. Le scénario, on l'a pris à l'envers. Et ça, on a eu de la chance, ça a fonctionné, donc on était très heureux. Mais mon tout premier documentaire, le confessionnal, c'était sur donc les confessionnaux, ces très jolis endroits qu'on trouve dans les églises. Là, j'ai fait les choses d'une manière très classique. C'est-à-dire que j'ai proposé un dossier à plusieurs chaînes, à la région.
Alors ça, c'était ton idée ?
Ça, c'est mon idée. C'était vraiment, c'est presque pour cette idée que j'ai fait une formation de documentariste.
D'accord.
Et du coup, j'ai un peu appris la grammaire. Je continue d'apprendre, hein, bien sûr, mais en tout cas les bases de la grammaire documentaire. Comment est-ce qu'on construit un dossier? Comment est-ce qu'on construit une narration, un dispositif ensuite à partir d'un sujet qu'on va présenter à des spectateurs?
D'accord, mais ça, ce métier de documentariste, oui. C'est en dehors du métier de réalisatrice?
Pour moi, c'est lié.
C'est lié.
Oui.
Ceux qui font ce métier peuvent construire une histoire et la proposer à un réalisateur.
Tout à fait.
On n'est pas obligé d'être réalisateur.
Ah, alors généralement, les documentaristes y réalisent.
D'accord.
Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils cadrent, c'est-à-dire qu'ils ont souvent un chef opérateur avec eux. Donc ouais. Mais souvent, autant les scénaristes en fiction ne sont pas forcément les réalisateurs, autant un documentariste qui propose une idée et qui ne la met pas en œuvre, en action,
en image, ouais.
En image, c'est plus rare, je crois.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier de documentariste? C'est la capacité de prendre une histoire et de la découper, de la raconter, de la cadrer. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Ça a l'air très intéressant.
J'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas une grande spécialiste, mais j'avais un tuteur, Olivier Donizot.
On est sur Radio Girafe Normandie. Tu n'auras pas une diffusion nationale, rassure-toi.
Mais peut-être que sur Radio Girafe Normandie, il y a un grand documentariste qui va dire « Mais mon Dieu !»«
Mais mon Dieu, Ninon, que
mais
dis-tu ?»
C'est incomplet. Alors, c'est sans doute incomplet, mais ce que j'en sais, c'est que le documentariste, c'est un cinéaste du réel. Et au début, je faisais une petite méprise, c'est-à-dire que je pensais que filmer le réel, ça voulait dire être très réaliste, être très...
Montrer la vérité.
Oui, mais en fait, on se rend compte que, moi je le dis d'ailleurs souvent aux personnes que je filme, rien n'est jamais naturel. C'est-à-dire qu'on rentre dans une boulangerie pour acheter une viennoiserie. On
joue un rôle.
On joue un rôle. Voilà, on n'est pas le même que quand on rentre chez soi avec la personne avec qui on vit ou quand on est tout seul dans sa voiture. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout de refaire des prises, de demander à des personnes que je filme en documentaire de faire plus voilà, de cette façon-là, parce que j'ai l'impression que ça les met plus en valeur. Voilà, ou de refaire tout simplement.
Tu peux modeler un petit peu la vérité, entre guillemets, ou le...
En tout cas, le moment.
Le moment.
Ouais, le moment, je
tu peux le rejouer.
Oui, absolument. Si quelqu'un a quelque chose de passionnant à dire, mais que ça peut nous arriver à tous, évidemment, on savonne un peu ou on reprend, on cherche nos mots alors que c'est normalement quelqu'un qui a une pensée très fluide. Bon, bah, je pense qu'il vaut mieux le refaire et la personne va redire sa pensée d'une manière... Comme toi, tu fais, Guillaume, là, dans ton émission de radio. Si à un moment, je me mets à complètement hacher les mots, soit c'est parce que je suis dans l'émotion et ça a du sens, tu garderas, mais si c'est juste une maladresse,
oui,
tu vas faire un montage.
On peut faire un montage, oui, effectivement. Donc, documentariste, c'est savoir raconter une histoire.
Voilà, exactement. C'est donner un point de vue sur une réalité, enfin, sur quelque chose qui existe ou qui a existé et dire, voilà, moi, je vais vous le présenter parce que je pense que ça peut vous intéresser. Les confessionnaux, au début, on m'a dit, mais peut-être qu'il y aura très peu de monde qui va être intéressé par les confessionnaux. Mais finalement, ça intéresse toutes sortes de personnes. Il y a les personnes qui sont croyantes, et puis il y a les personnes qui adorent aussi le bois, et puis d'autres qui sont intéressées par la spiritualité en général, et puis d'autres qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ces... qui n'y vont jamais, mais justement, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On voit ça dans les films, mais ça existe dans la vraie vie. Donc voilà, ça peut...
Alors, une fois que tu as... La formation dure combien de temps? Ça se passe concrètement, en fait? C'est une école? C'est des cours par correspondance, j'allais dire, par Internet? Ou des visios? Ou c'est des cours physiques?
Alors, la plateforme des Pays de la Loire, moi, j'ai fait cette formation là-bas. C'était sur 6 mois, on était un petit pôle de 5 stagiaires fiction, 5 documentaires. On avait chacun un tuteur qui nous aidait à travailler notre dossier pour ensuite le pitcher. Alors ça, c'est quelque chose.
Ah, t'apprends aussi ça?
Ah ouais.
Okay. Donc à le vendre, en gros.
À le vendre en 5 minutes,
oui.
en racontant ton histoire d'une façon un peu plaisante, un peu comme du stand-up, quoi,
ouais.
Pour intéresser, parce que ça va vite, puis il y en a plein. Donc, il faut que la personne qui est dans la salle dise « Ah, je ne peux pas m'en passer, c'est incontournable comme projet. »
Ok, ah ouais, t'apprends à te vendre, en fait.
Absolument.
Et cette formation, une fois que tu l'as faite, te permet de réaliser... Alors, j'imagine, Ninon, en fait... Moi, si j'avais fait cette formation, je me dis, mais ça y est, mais toutes les idées que j'ai, je peux les mettre en forme et je peux les réaliser, alors.
J'ai un
donc
peu
ça ne nous a pas arrêtés,
aussi.
En fait, c'est ça?
Alors, oui, la seule chose qui nous arrête,
maintenant
c'est
maintenant que j'ai les clés, je sais me servir, je sais conduire, je peux y aller. Donc
exactement. Et on a envie de conduire après des motos et des camions et des triporteurs.
Et donc, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est les personnes qui nous... Les producteurs ou les chaînes qui nous disent « Non, ça, non. » Alors là, à moins d'être
vous
très têtu...
Vous êtes allé un peu loin, Ninon, cher Ninon. Écoutez, reprenez-vous.
Ça peut arriver. Ouais. Ou alors, non, on ne va pas... Là, c'est trop... Non, on ne va pas trouver de cases. Alors, on nous parle beaucoup de cases dans notre programmation. Donc, non, on ne va pas...
Quand tu réalises ton documentaire, tu le prépares avant, tu le découpes avant, tu connais les scènes que tu vas filmer, il y a un peu d'improvisation au jour le jour en fonction des gens que tu vas rencontrer, des événements qui vont survenir auxquels tu n'aurais pas pensé, de la météo. Comment ça se passe? Il y a un peu d'improvisation, un peu d'écrit
Beaucoup d'écriture en amont, beaucoup de dossiers donc, où on rencontre ces personnages.
Ah oui, il y a des demandes à faire également aussi, effectivement.
Voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup de travail en amont, surtout au moment du dossier. Parce que là, on doit parler aux producteurs, aux diffuseurs et aux régions des personnes qu'on va filmer. Donc ça, c'est assez joli parce qu'il y a des premiers rendez-vous. Et ensuite, il y a pas mal de choses qui surviennent, effectivement, qu'on ne peut pas prévoir. Un exemple, pour mon premier documentaire sur les confessionnaux, j'avais rencontré un prêtre. C'était au printemps, qui m'avait reçu et le rendez-vous était pris pour l'automne. Et puis au moment où... C'était vraiment un de mes personnages principaux. Au moment où j'arrive, j'avais 2 jours de tournage dans la Sarthe. Mmh. Et ce prêtre était souffrant. Rien de grave, mais il n'était pas en mesure d'être filmé. Et là, ça a été un peu la panique.
Oui, il a fallu t'adapter.
Ben oui, parce que c'était vraiment quelqu'un qui détenait un savoir incroyable, que j'avais commencé à interviewer. Et puis, j'ai eu la chance, la grâce, j'ose dire, et j'ai rencontré le père Jacques Vianney, qui a répondu à toutes nos questions et qui nous a éclairés tout le long du film. Mais j'ai eu un moment de panique, l'équipe technique arrivait, je n'avais pas... plus mon héros.
Oui, d'accord. Et donc, il fallait s'adapter tout de suite et rapidement.
Ah oui, on était un jeudi soir et on tournait le vendredi matin.
Donc, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est improvisé.
Absolument, ce qui survient.
C'est la réalité et c'est, j'imagine, pour chaque documentaire, il y a cette partie-là qui rentre en jeu.
Absolument.
Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est, tu as eu un travail d'écriture pour un documentaire, donc tu l'imagines, tu le visualises, mais après, il faut le filmer.
Oui.
Est-ce que tu penses aux scènes? Est-ce que tu t'imagines comment tu vas filmer? Quelles sont les scènes que tu vas faire? Comment ça va être réalisé? Est-ce que tu l'imagines filmer déjà dans ta tête? Tu vois?
Oui, alors ça c'est un travail qu'on fait beaucoup avec son chef opérateur.
Alors chef opérateur, qui est-ce?
C'est le directeur de la photo. C'est le chef opérateur, c'est lui qui tient, ou elle, en l'occurrence, moi, c'était une chef opératrice qui s'appelle Margot Paturel, qui faisait une image très belle. Alors, c'est ma productrice qui me l'avait présentée. Et alors, elle tient la caméra, elle cadre. Donc, c'est très important. Et elle fait la lumière. Parce que même dans
c'est
un documentaire...
C'est pas toi qui tiens la caméra, en fait.
Non.
D'accord.
Non, quand j'ai la... Non, c'est... elle a... un vrai savoir-faire technique qui et moi je alors avant de tourner on parle ensemble de quel style d'image je veux m'approcher. Est-ce que je veux une image très très acidulée avec des couleurs très très affirmées ou bien est-ce que je veux quelque chose? Alors on s'envoie des photos, on se cite des films,
Dit il y a un échange. Elle réalise la partie technique. Elle met en lumière la technique que tu as en tête, en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, moi, je lui dis... Bon, la question se posait vraiment pour le confessionnal. C'est une toute petite... c'est une boîte, un confessionnal. Donc, où est-ce qu'on place la caméra? Où est-ce que, pour ne pas être trop proche de la personne qu'on filme, comment elle éclaire? Est-ce qu'on se met d'un côté de la grille? Évidemment, ça, c'était très, très tentant de se mettre d'un côté de la grille, puis de l'autre. Comment rendre compte de cet endroit qui est très sombre, où on murmure? Donc, voilà, on s'est posé toutes ces questions-là. Et puis, il s'est aussi... Très vite, on s'est dit, bien entendu, on ne filmera jamais aucune confession.
Non.
Donc, ça, c'était même pas imaginable de demander ou de s'approcher. Donc, j'avais proposé à Margot, qui m'avait complètement suivie dans ses principes, soit on était extrêmement près au moment où la personne rentrait ou elle sortait, mais on n'assistait à rien de l'échange, et soit on était très très loin. Et donc, on passait de plans très proches à des plans très larges où, d'un seul coup, le confessionnal apparaissait tout petit. Oui. Et nous, on était dans une pudeur distanciée.
Ce qui a l'air formidable dans ce métier, c'est qu'en fait, tu peux laisser porter complète... C'est un travail créatif extraordinaire.
Ah, c'est génial. C'est franchement génial.
Parce qu'une fois que tu as l'histoire, tu as les personnages... Tu vas pouvoir le mettre en scène, tu vas pouvoir l'imaginer, et ça va de la construction, de l'écriture, même jusqu'à l'image. Et la lumière, le son, tout ça,
tout
c'est vraiment artistique.
Ah mais complètement, et le montage après quand on a...
Ah oui, j'ai pas parlé du montage. Donc le montage, ça consiste en quoi ?
Alors le montage, on regarde toutes les rushes, c'est-à-dire toutes les prises qui ont été filmées les unes après les autres, mais dans le désordre, et puis il y en a des bonnes, il y en a des beaucoup moins bonnes techniquement. Et donc, moi je monte toujours avec quelqu'un qui découvre les images, qui ne sait rien de l'histoire, qui ne sait rien des personnages, ça c'est très intéressant, parce que qui est totalement vierge, et qui me dit « ça on comprend, ça on comprend pas ». Donc j'écoute toujours beaucoup. C'est un vrai travail d'équipe.
Oui.
Si moi j'adore un passage, mais que la monteuse avec laquelle je travaille me dit « écoute, excuse-moi, mais c'est pas du tout clair », là je comprends pas ce qu'il se dit.
La monteuse ou le monteur, c'est la personne qui ne connaît pas le projet, ou tu lui en as parlé avant, en amont,
mais elle n'a
pas assisté au tournage.
Jamais. On dit toujours qu'il vaut mieux pas. Qu'un monteur assiste au tournage.
Parce que si elle, qui n'a rien vu du projet, comprend, ça veut dire que la plupart des gens vont comprendre.
Absolument, comprend, ou qu'il est séduit. Voilà, il y a un classique, c'est que parfois il y a des scènes, que ce soit en fiction ou en documentaire, il y a des scènes très très difficiles à tourner, qui nous coûtent beaucoup, parce qu'il a fait très froid, parce qu'il a plu, et donc ça a été quelque chose de, une espèce d'épopée. Donc c'est généralement des séquences, quand on les voit au montage, on se dit, celle-là, il faut qu'elle figure.
Oui. On a envie qu'elle figure. On a mis tellement d'énergie que
c'est sûr. On
ne peut pas s'en passer.
Exactement. Et le monteur ou la monteuse disent « ouais, enfin bon ». Et là, on se dit « non, mais attends ». Et là, moi, ça m'est arrivé de dire « non, mais tu ne te rends pas compte ». Et qu'elles me disent « oui, je suis absolument désolée, mais bon, c'est vrai que là, je ne vois pas sa place dans le film ». Et des choses qui nous paraissent un peu, qui ont été, qu'on n'a même pas remarquées en tournage, d'une certaine façon, vont apparaître.
Des scènes que tu aurais pu filmer pour avoir des images, pour avoir de la matière, qui n'étaient pas nécessaires finalement à l'histoire. D'accord.
Oui, dont on n'a pas vu l'intérêt immédiat ou la puissance, vont nous sauter aux yeux d'un seul coup. Ça, c'est la magie d'une image ou quelqu'un qui passe à la caméra, mais qui crève l'écran, comme on dit. Alors là, c'est indiscutable. C'est-à-dire
donc, tu as l'écriture, la réalisation, le montage. Tout ça, c'est c'est un métier formidable, en fait.
Ah, vraiment, j'allais dire, je le conseille à tout le monde. non, mais si on aime aller à la rencontre de différents mondes et travailler en équipe et raconter des histoires, c'est vraiment... assez très gratifiant et très, très enrichissant.
D'accord. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de parler de ton métier de metteur en scène dans une autre émission.
Absolument.
Merci, Ninon. Donc, on aura la chance d'avoir une autre émission avec Ninon Bretéchet.
Et on va faire une saga.
Ah ben, c'est parfait. La saga, épisode numéro 1. Donc, vous suivez l'épisode numéro 1. Alors, justement, quelle est, entre réalisatrice et comédienne, as-tu ton cœur balance ?
Ah non, il se remplit.
De manière équilibrée.
Ah oui, j'adore les deux.
Est-ce que tu aurais des... Quels conseils tu pourrais donner à une personne qui aimerait se lancer soit dans le métier de comédienne, soit dans le métier de réalisatrice? Quels conseils tu pourrais lui donner pour réaliser ce qui est une passion, évidemment?
Un conseil pour les deux... comment dire ? Pour les deux chemins, c'est d'écrire. D'écrire et ensuite de se former. Mais à partir du moment où on écrit...
Écrire, c'est écrire ce qui nous passe par la tête, écrire un sujet, écrire une histoire.
écrire quelque chose qu'on aimerait jouer quand on se destine à être comédien, ou faire jouer à quelqu'un d'ailleurs, adressé à un camarade ou une camarade, et écrire lorsqu'on veut filmer, faire du documentaire ou de la mise en scène, et écrire quelque chose qu'on souhaiterait porter sur un plateau ou faire porter sur un plateau. Ça, c'est pour éviter ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une attente permanente. À partir du moment où tu écris, d'abord, ça te précise tes envies.
Oui.
Et puis, ça fait que tu as quelque chose à façonner,
d'accord,
à travailler.
Tu vois tes forces, tes faiblesses instinctivement.
Absolument.
Et tu vas combler ces faiblesses en lisant peut-être certains auteurs, ou en allant voir d'autres films, ou apprendre des techniques. C'est ça, en fait, le processus, c'est écrire pour apprendre, en fait.
Écrire pour apprendre et puis aussi écrire pour faire.
D'accord.
Parce que si on est comédien, qu'on se destine à être, on a 20 ans et on veut être comédien, alors on peut jouer les grands textes, évidemment, mais si on veut agir tout de suite, eh bien on peut aussi tout à fait écrire un texte et puis donner rendez-vous à des personnes et puis dire son texte et le jouer ou le faire jouer. On est dans l'action.
Ouais, écoute, je pense que c'est un conseil formidable, ça.
franchement,
c'est un conseil qu'on t'a donné ?
Non. Parce que non, mais que j'ai entendu, par exemple, moi j'admirais beaucoup l'équipe du Splendide, et quand je les entendais parler, eh bien ils disaient qu'ils écrivaient, qu'ils écrivaient les uns pour les autres, et je me suis dit, mais oui, ils faisaient,
ouais.
et en observant les personnes que j'admirais beaucoup autour de moi, que ce soit des chanteurs d'ailleurs, des comédiens, des réalisateurs, eh bien j'ai vu que c'était des artisans, quoi, qu'ils écrivaient et qu'ils se lançaient. Donc, oui, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner. Vous ne risquez rien à le faire, en tout cas.
Très bien. Est-ce que tu as des projets actuellement ou des projets futurs?
Oui.
Avant de conclure l'émission.
Alors là, je suis en plein dans les bobines du Havre,
oui,
avec une super équipe.
Oui. Eh bien, écoute, peut-être que les bobines, on en parlera dans une autre émission, alors. Parce que c'est en ce moment, le tournage a lieu en ce moment.
Voilà, on est en plein... Là, je suis au Havre pour tourner auprès des Havraises et des Havrais.
Alors, tu peux nous dire ce que c'est que les bobines du Havre, en quelques mots, le projet, l'idée du projet ?
L'idée du projet, c'est d'aller filmer des Havraises et des Havrais qui sont nés en Normandie ou qui sont nés très, très loin, qui vivent ici, qui ont passé le cap des 80 ans ou bien qui n'ont pas encore passé le cap des 10 ans. Et ensemble, ils racontent leur vie et leur ville.
Très bien. Et donc là, je sais que les bobines, il y a eu les bobines 1, les bobines 2, et donc actuellement, c'est les bobines 3 que tu vas réaliser avec aussi Lisa Brival,
absolument,
comme réalisatrice.
Avec Lisa Brival. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on filme la même ville, les mêmes personnes, et en fait, c'est une question de regard parce que, évidemment, on n'a pas du tout. On s'adore, on s'entend très bien, mais on ne se ressemble pas du tout. Et donc, on filme les choses avec nos.
Chacun avec votre point de vue,
absolument,
votre sensibilité, votre expérience.
Exactement. Et donc, ça, c'est très différent et ça, c'est réjouissant.
Eh bien, écoute, c'est parfait. Alors, ça, c'est le projet actuel.
Je
pense que ce projet-là, on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission, puisque je sais maintenant qu'on aura une autre émission de cette année. Ninon, avant de se quitter, une dernière question que l'on pose à toutes les personnes que l'on interroge. Ninon, si tu devais être une girafe, quelle girafe serais-tu ?
Je serais une girafe rousse qui court vite et qui sourit.
Merci beaucoup Ninon, c'est formidable. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup Guillaume.
Je rappelle que nous étions en présence de Ninon Bretéché, comédienne, réalisatrice, metteur en scène. C'est Radio Girafe Normandie, un havre de culture, et je vous retrouve très bientôt.